bonsoir, comment allez-vous? Cette semaine, j'étais tellement contente que les magasins soient ouverts que j'ai accepté d'aller chez les Suédois. Vous savez, ceux chez qui on va juste acheter des bougies chauffe-plat et des serviettes en papier, et de chez qui on repart avec un, voire deux petits tapis en coton rayé qui ne servent à rien, des dimes, des mini-serviettes de toilette qui ne servent à rien non plus, des bougeoirs super jolis comme ceux qu'on a déjà, mais en mieux, enfin en neuf, des draps qui ne sont aux dimensions d'aucun lit, des brosses à vaisselle, des portes-savons qui serviront un jour si on se souvient de l'endroit où on les a rangés. En partant, comme on est au milieu de nulle part, dans une zone où les magasins sont grands comme des pays mais pas un seul bistrot, je me suis dit qu'on allait déjeuner sur place. Il y avait plein de panneaux lumineux vantant des glaces à 1 euro, c'est pas cher, hein? Et la glace avait l'air tellement bonne. Nous sommes allés commander notre déjeuner sur un autre panneau lumineux avec des menus qui déroulaient. Les enfants ont pris un hot dog à 1 euro, pas cher non plus, hein? Même pas le prix d'un ticket de bus. Les enfants ont dit que c'était très bon. Moi, j'avais choisi un wrap saumon, parce que je m'imaginais un bel Écossais dans les remous d'une rivière scintillante des Highlands, de l'eau jusqu'au kilt, en train de remonter un magnifique saumon, et puis s'en allant danser dans un pub où on baumerait un feu de bois, jusqu'à ce que ma fille me sorte de ma rêverie. Tu sais, ce sont des saumons qui vivent dans leurs excréments, entassés dans une bassine remplie de jus d'antibiotiques. J'ai pris un wrap végétarien. Le pain, enfin la crêpe qui entourait, avait une texture de tapis de bain, peut-être cycle-t-il les invendus. Mais l'intérieur était super bon. Nous avons fait couler nos cafés nous-mêmes et puis nous sommes allés emporter notre déjeuner sur le parking, c'était cool. Quand nous avons fini, bien les cafés étaient froids. Je me demande encore ce qu'il y avait dans la si bonne saucisse du hot dog à 1 euro. Pas du chien quand même!
Bonjour, je m'appelle Léo, je suis saisonnier et je voudrais savoir pourquoi nous pouvons manger certains animaux et pas d'autres. Merci, au revoir.
C'est bien remarqué. Alors nous avons proposé ta question à Anthony Rollet. C'est vrai, on mange certains animaux et pas d'autres. Pourquoi on ne mange pas de rats, sauf pendant la guerre?
On pourrait faire une liste et consacrer plusieurs émissions, les petits bateaux, à ça, tellement il y a d'interdits. Tous les pays, toutes les religions, toutes les époques.
On a eu des interdits.
Ça n'est que ça. Pourquoi? Parce que la nourriture, au départ, c'est une question vitale. J'ai faim, si je ne me nourris pas, je vais mourir. Si je ne me nourris pas, je ne vais pas me reproduire, donc ma famille, mon clan, mon pays va disparaître. Voilà. Tous nos ancêtres ont été obsédés, sous l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne, par quoi? Par ce qui se passait dans le ventre. Le ventre s'est vécu comme une forge. Si c'est trop approvisionné, à ce moment-là, on a des péchés coupables, la gourmandise, la lubricité, on devient quelqu'un que l'on peut condamner à l'enfer, comme un péché capital dans la religion catholique, par exemple. Mais si on ne mange pas assez, eh bien le corps se refroidit, il devient sec comme une brindille, il va casser, il ne pourra pas remplir son office. Moyennant quoi, vous avez une concurrence obsessionnelle des prêtres, des rois, des princes, de ceux qui savent écrire, pour déterminer des règles. Donc des devoirs, des droits et des obligations. Les religions vont avoir un rôle absolument déterminant parce que la religion, elle va permettre d'apporter des réponses aux deux questions qui taraudent l'individu depuis qu'il est sur Terre. Il y a ceux qui sont au-dessus, tous les dieux, qui vous menacent en permanente, ils vous envoient du soleil, de la pluie. Ceux-là, c'est des gens qui vous surveillent, on n'a pas moyen d'être tranquille. Donc, il faut leur envoyer des fumets ETS de repas qui vont les calmer, quelles que soient les religions. Et puis, il y a ceux qui sont en dessous, qui nous tirent par les pieds, ceux qui sont morts, ceux qu'on va aller rejoindre un jour le plus tard possible, qui vont nous envoyer des tas de malédictions si nous ne pensons plus à eux, si nous ne faisons pas de festin commémoratif, dans le cercueil desquels il faut mettre des nourritures. Pensez aux Égyptiens pour le voyage.
Pour passer de l'autre côté.
Et pensez à tout simplement ce que nos ancêtres, les Gaulois, ils partaient avec de quoi faire un voyage dont ils ne connaissaient ni le terme et pour cause personne n'en était revenu.
Ah oui, c'est juste.
Donc plus on était riche, plus on était vénard, plus on était considéré, plus on partait avec de la nourriture symbolique, c'est-à-dire essentiellement du pain, du sel, de l'huile dans les pays d'huile, du vin et évidemment de la viande et du gibier. C'est vrai pour toutes les religions. Maintenant, comment ça s'organise à partir de là? Vous allez avoir les prêtres qui vont indiquer des jours où on peut manger, d'autres où on ne peut pas manger, qui vont dire « Ah bah attendez, tel aliment est pur, tel aliment est impur, telle façon de découper est pure, tel autre est impur. » C'est le cas par exemple dans la religion juive, dans la religion musulmane. Vous avez effectivement toujours cette obsession. Je prends un exemple simple qui a obnubilé les prêtres de tout le Moyen-Orient. Les insectes ont toujours été consommés par tous les individus. Ils faisaient, encore il y a 50 ans, on faisait des omelettes de verre à soie, des omelettes de ceci. Voilà, votre mimique est tout à fait révélateur. Ça, c'est ce que j'appelle le tabou mental.
Bah oui.
Parce que votre arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père, il y a 1000 ans, on leur aurait servi des yeux de bœuf, ils auraient été mais, en extase. Les insectes, nous allons vraiment tordre le nez si on nous sert aujourd'hui une poêlée de sauterelles. Vous aviez un insecte qui s'appelle le procuste chagriné. Il a probablement nourri l'ordinaire et même l'extraordinaire de tous les charpentiers et autres marbriers de la cathédrale de Chartres, parce qu'on le trouvait à cette époque-là dans la Brie et dans la Beauce. C'est quoi ? Si vous le prenez comme ça, c'est un goût de poussière, c'est dégueulasse. Mais si vous le broyez au mortier, si vous en faites une pâte, si vous le délayez, si vous le détendez suffisamment bien, vous retrouvez quoi ? Le goût des Grands Bourgognes, Puligny ou Chassagne-Montrachet.
Non. Redites-moi, comment il s'appelle ?
Le procuste chagriné.
Anthony Rollet avait des ancêtres irlandais. Je dis avait parce que il est mort il y a maintenant presque 10 ans. Il avait choisi la nationalité française. Il a écrit beaucoup de livres sur l'histoire de la gastronomie française et l'histoire du vin, entre autres, Histoire mondiale de la table, édité chez Odile Jacob. Et il enseignait également à l'Institut des sciences politiques. Il enseignait l'histoire contemporaine de l'Europe. Il est mort à 59 ans. C'est jeune pour mourir. Laurence De Villers enseigne également, elle est professeure à Sorbonne Université en informatique appliquée aux sciences humaines et sociales, et elle dirige au CNRS la chaire de recherche en intelligence artificielle.
Je m'appelle Nicolas, j'ai 6 ans et demi. J'aimerais bien savoir pourquoi les robots sont plus intelligents que les humains. Merci beaucoup. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas. Laurence De Villers, a-t-il raison Nicolas ?
Alors Nicolas, il a raison d'une certaine manière et il a tort d'une autre manière. Je vais expliquer. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence chez les humains ? Difficile à dire. On fait passer des tests de quotient intellectuel, QI. On appelle ça QI. En ce moment, on est en train de se dire qu'il y a un autre quotient intéressant, le quotient émotionnel. La façon dont on sait gérer ses émotions, comment on interagit socialement dans la vie. C'était aussi extrêmement utile lorsqu'on a une équipe à gérer, par exemple, lorsqu'on est responsable. Donc on voit bien que l'intelligence est plusieurs facettes. Les robots sont intelligents pour une certaine facette qui est le calcul. On a plus de mal, nous, devant une équation extrêmement grande ou devant des calculs justes qui nous amènent à des chiffres très très grands, de trouver la solution, parce qu'on n'arrive pas à la poser dans notre tête. Alors que les machines, elles, n'ont aucun problème, ni de mémoire, ni de potentiel de calcul. C'est cela qui leur permet de paraître intelligents. C'est pas du tout ce qui est intelligent pour l'humain, sa capacité de solidarité, d'altruisme, d'émotion. Ce n'est pas du tout ça. La machine n'a pas de corps, elle a juste cette faculté de calculer.
Donc elle n'est pas plus intelligente, elle est plus performante dans le domaine du calcul. Elle n'est pas noyée par les chiffres comme nous. Au bout d'un moment, on est perdu.
C'est exactement ça. Parler d'intelligence, c'est une métaphore. Elle est performante sur certaines tâches, plus performante que nous. Et ça, il faut le comprendre, ne pas en avoir peur et l'utiliser au mieux pour nous.
Vous dites ne pas en avoir peur, parce qu'on est toujours, on perd un petit peu ses moyens face à quelqu'un qui a des compétences qu'on n'a pas. Entre humains, c'est comme ça en tout cas.
C'est ce qu'il faut apprendre. Comment nos relations seront demain avec ces machines? Et ça, il va falloir l'apprendre à l'école.
Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, sans que la machine soit plus intelligente que nous, Laurence De Villers, qu'elle nous embrouille?
Ah, totalement. D'autant plus qu'on projette sur ces machines des capacités de l'humain. On va lui prêter des compétences qu'elle n'a pas. Surtout si elle nous parle. Surtout si elle a l'air humaine. Surtout si elle nous ressemble. Surtout si elle synthétise artificiellement des émotions, disant que « Nicolas, tu es formidable, je suis ton ami », par exemple.
Mais c'est pas vrai.
Non, c'est une posture, c'est une simulation qui peut être utile dans certains cas, mais en tout cas qu'il faut savoir déjouer. Et cette façon de déjouer les machines, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Pas seulement les enfants, les adultes aussi.
Vaste programme, Laurence De Villers a écrit « Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités », édité chez Plon.
Appelle-toi, appelle-toi. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha.
La température a grimpé. Quand tu m'as accompagné, soudain j'ai trouvé une idée pour cacher ma timidité.
C'était qu'une simple démonstration. Je t'ai pris à l'essai, juste une façon de faire diversion avant que ça dégénère.
Appelle-toi, appelle-toi, appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha.
Lorsque je bouge mon corps, je le fais à mon insu. À force de faire des efforts, je suis essoufflé et je sue.
Ça n'est qu'une simple démonstration. Je te prends à l'essai, histoire de capter ton attention. Au lieu que tu t'énerves pas. Je veux rentrer chez toi. T'es dans tous tes états. Bada boum boum patatra. Mais t'es plus fort que ça. Tu retombes sur tes pattes comme un chat.
Chapeau bas, tcha tcha tcha. Approche-toi, tcha tcha tcha. T'es comme moi, tcha tcha tcha. Hop de toi, tcha tcha tcha.
Cha-cha, ça sonne, hein, et le nom aussi de la chanteuse qui est comédienne d'ailleurs aussi, sonne Bonnie Banane.
Les petits bateaux sur France Inter.
C'est la première fois que Cécile Sakai vient au petit bateau et c'était un plaisir.
Bonjour, je m'appelle Tristan, j'ai 10 ans, je voudrais savoir comment a-t-on inventé les mangas. Merci, à bientôt.
Bonsoir Tristan, nous proposons ta question à Cécile Sakai, Tristan, qui enseigne le japonais, qui le traduit également et qui a écrit sur des auteurs japonais son dernier livre pour une autre littérature mondiale, la traduction franco-japonaise en perspective. C'est un ouvrage qui est édité aux éditions Piquier que tu liras, je l'espère pour toi, probablement plus tard. Alors, comment a-t-on inventé les mangas, demande Tristan, Cécile Sakai?
Oui, bonjour Tristan. C'est une longue histoire passionnante. Je ne sais pas si en 3 minutes, je pourrais te la raconter.
Ah, ça, c'est le grand défi des petits bateaux.
Alors, j'ai quand même besoin de te raconter un petit peu ce qui s'est passé. En fait, dans la littérature très très ancienne, hein, dès le 11e siècle au Japon, on racontait des histoires en associant les textes qui étaient recopiés à la main à de très belles illustrations, de très belles images colorées, dorées, présentées sur de longs papiers enroulés que l'on appelait les rouleaux illustrés. Il y avait déjà l'idée que l'image pouvait accompagner l'écriture. Et dans ce prolongement, plus tard, vers les 17e, 18e siècles, le mot même de manga a été inventé pour désigner des dessins aux traits libres, souvent amusants, souvent des caricatures, et notamment sous le pinceau du très grand Hokusai,
qui est
le grand maître de l'estampe, celui, vous savez, qui est connu par ses 36 vues du mont Fuji.
Oui, moi je disais Hokusai avec un très mauvais accent, j'ai compris. Hokusai.
Voilà, la grande vague qui s'enroule, voilà, c'est Hokusai. Et il avait aussi toute une série de magnifiques, jolies, petites caricatures qu'il a appelées des mangas. lui-même. Et puis, il y a un changement de contexte au début du XXe siècle, donc on va très très vite. Les caricatures américaines et françaises sont arrivées, ont été introduites au Japon, avec des techniques différentes. Et finalement, c'est après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 50-60, que le genre du manga, tel que tu le connais aujourd'hui, se met en place. Le nom de l'auteur à retenir, le grand-père, si l'on peut dire, du manga d'aujourd'hui, c'est Tezuka. Tezuka qui est, par exemple, l'auteur de Astro le petit robot, que tu connais sans doute, ou bien Léo le roi de la jungle, de très grandes œuvres dont s'est inspiré, par exemple, Disney. Et finalement, aujourd'hui en France, il y a une coexistence entre les mangas, d'une part, qui occupent une grande part du marché, qui passionnent les jeunes Français, mais aussi donc la bande dessinée franco-belge, avec Astérix, bien sûr, Tintin, etc. Et puis les comics américains, les super-héros des Marvel, etc. Voilà, c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et finalement, les mangas sont en quelque sorte la combinaison entre différentes influences telles que Tezuka a réussi à les mettre en place, avec des dessins très spéciaux, un grand visage, un petit corps, de grands yeux et une toute petite bouche.
Voilà des révélations sur les mangas. Merci Cécile Sakai. Peut-être qu'avant nous pêchions un peu par ignorance évidemment et que on s'imaginait beaucoup de lieux communs, probablement de sottises sur les mangas. Vous écoutez Les Petits Bateaux, l'émission où des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, c'est Audrey, j'ai 16 ans. J'appelais pour savoir en fait à quoi ressemblaient les rêves des personnes qui étaient aveugles de naissance. Merci, au revoir.
Bonsoir Audrey, nous proposons ta question. Tu l'imagines à quelqu'un qui ne voit pas. À Mouhot-Boiscaz, vous êtes consultant et conférencier dans le domaine de la diversité et du handicap. Êtes-vous non-voyant depuis votre naissance ?
Je suis nécessiteux, c'est-à-dire aveugle. Hein ?
Un jeu de mots avec « nécessité ». Donc, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Audrey ?
Audrey, ta question est magnifique. Elle ouvre un univers de complexité, parce qu'en effet, comment construire des impressions sans la vue ? Eh bien, figure-toi que nous avons quatre autres sens. Nous sentons, nous écoutons, nous touchons et nous marchons. Eh bien, tous ces sens sont présents dans mes rêves. Mes rêves sont alimentés par tous les romans que j'ai lus, sont alimentés par toutes les descriptions qu'on m'a faites, et je me vois souvent voler, mais quand je vole, je suis dans un manège de la Foire du Trône. Je me vois souvent marcher, parler, et j'entends les haut-parleurs, j'entends les micros, j'entends le vent, je sens les odeurs des souks, je sens toutes les ambiances dans lesquelles je me trouve, évidemment, l'étoffe des robes, et toutes les choses qui font que la vie est agréable et miraculeuse. Donc on peut tout à fait rêver sans avoir besoin de voir grâce à la mémoire de tout ce qu'on a accumulé comme rencontre, comme lecture, comme vision de film, comme écoute d'émissions de radio. Voilà de quoi sont faits mes rêves.
Il y a quelque chose d'intéressant, hein, Mouhot-Boiscaz. Vous avez dit que vous rêviez comme bon nombre d'entre nous, que vous voliez. Pourtant, nous sommes assez peu à avoir vraiment volé. On a peut-être volé dans un avion, mais volé comme un oiseau, et pourtant on rêve qu'on vole. Donc est-ce que finalement pour un aveugle, rêver de couleur, ce n'est pas pour quelqu'un de banal et de rêver qu'il vole avec des ailes ? Est-ce que ce n'est pas la même chose ? Finalement, on peut rêver ce qu'on n'a jamais fait.
Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que chacun voit l'horizon à sa porte. Chacun voit les limites et les rêves permettent de les transgresser. Il m'est arrivé de rêver que j'étais dans une navette spatiale. Et tout mon rêve était peuplé de ce que j'avais entendu des différentes émissions retraçant les vols des uns et des autres. Et en effet, dans le rêve, je ne vois pas, mais tous les obstacles qui dans le jour m'empêchent d'être pleinement autonome sont gobés. Sauf quand je tombe ou que je me fais tuer ou que je me manque de me faire tuer comme tout un chacun. Et là, c'est un cauchemar et je me réveille en sursaut.
Merci à Mouhot-Boiscaz d'avoir partagé avec nous quelque chose d'assez intime finalement, les rêves. Rêver qu'on vole, si ça ne vous est pas arrivé, j'espère vraiment que ça vous arrivera. Parce que d'abord c'est follement pratique de voler, et puis c'est grisant. When C'était les Sparks sur France Inter où vous avez la bonne idée d'écouter les petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Jules. Je voudrais savoir, j'ai 8 ans et demi, pardon, et je voudrais savoir si les plantes ressentent des sensations quand on les coupe. Merci, au revoir.
C'est nous qui te remercions, Jules, pour cette question que je crois tout le monde a dû se poser un jour. Ernst Zürcher, vous êtes ingénieur forestier, docteur en sciences, enseignant-chercheur. Est-ce que les plantes ressentent quelque chose quand on les coupe, demande Jules.
Très belle question de la part de Jules, et que la science la plus moderne est en train de se poser très sérieusement et en train d'explorer des pistes de réponse. J'ai dans mon sac un livre de Stefano Mancuso, L'intelligence des plantes, et c'est absolument incroyable. Bon, dans mes propres travaux de recherche, on a travaillé par exemple sur les signaux bioélectriques dans les plantes, extrêmement sensibles à tout ce qui leur arrive au niveau climatique, mais aussi les cycles lunaires, par exemple, influent sur les courants bioélectriques. Et maintenant, par exemple, dans ce livre de Mancuso, on parle de la multiplicité des organes sensoriels des plantes, pas seulement lorsqu'on les touche, lorsqu'on les arrose naturellement, ça provoque des réactions, mais même les sons provoquent des réactions. Les plantes sont sensibles à des sons, sont sensibles aux chants d'oiseaux, sont sensibles même à des petits déclics au niveau des racines. On a identifié des petits sons émis et qui permettent aux racines de s'orienter, de s'organiser. On entre dans un monde d'interaction absolument fabuleux où les plantes perçoivent les sons mais émettent des sons et interagissent. Donc maintenant, est-ce qu'elles ressentent quelque chose ou est-ce qu'elles sont sensibles à l'intention de la personne qui va les couper? C'est clair, une fois que vous avez votre sécateur qui va inciser dans une branche qu'on veut couper de cette plante, de ce jeune arbre, là il y a clairement un effet physique. Vous interrompez des flux de sève, vous interrompez des courants électriques à l'intérieur de cet arbre. Mais maintenant, on a même des suppositions, bien certains travaux semblent le montrer, que déjà de s'approcher de l'arbre avec cette intention a l'air d'être perçu. Nous-mêmes, avec notre attitude, notre activité mentale, on émet aussi des fréquences électromagnétiques. Et les arbres émettent et perçoivent des fréquences électromagnétiques. Alors là, on pourrait imaginer que quelque chose de l'ordre de la communication et du pressenti ait lieu. Donc là, on a des grands champs de découverte qui s'ouvrent à nous suite à cette question.
Eh bien, merci beaucoup Ernst Zürcher. Alors, j'aimerais profiter justement de cette réponse d'Ernst Zürcher pour vous proposer quelque chose, les enfants. Faites pousser des plantes. C'est si facile et tellement amusant. Au début, prenez ce que vous avez sous la main, des trucs gratuits, des boîtes à œufs par exemple, une poignée de terre un peu fine pour les remplir, et en guise de graines, ce que vous avez dans votre cuisine par exemple, des pépins de pommes, des cacahuètes, des haricots secs, des lentilles, des grains de blé, tout est bon. Essayez, certaines choses sortiront et d'autres pas. Vous serez étonnés par la joie que vous apporteront les plantes qui sortiront. Guetter une graine, la regarder, s'inquiéter de son confort, savoir si elle n'a pas trop de soleil, si elle ne va pas griller, ou si elle n'a pas trop d'eau, si elle ne va pas pourrir. Et puis s'apercevoir un beau matin que cette petite graine est fendue et qu'une minuscule petite pousse sort de la fente et se dirige vaillamment vers le ciel, c'est génial, c'est grisant. Après, vous déménagerez les petites pousses vers la vraie vie. Elles passeront de la maternité à la crèche. Vous les mettrez dans des petits pots peut-être, et puis après dans des pots encore plus grands, et puis peut-être en pleine terre si vous pouvez. Et puis vous achèterez des graines de fleurs, de légumes, de fruits. Vous découvrirez des préférences pour des plantes comme ci ou des plantes comme ça, celles qui se ferment l'après-midi, celles dont les feuilles embaument comme les tomates, celles qui veulent qu'on leur fiche la paix, celles qui veulent qu'on s'en occupe tout le temps. Croyez-moi, un monde merveilleux va s'ouvrir devant vous. Léon Hugo Bonte a écrit un potager bio dans la maison. Et oui, il vous propose de finalement faire pousser des plantes à l'intérieur de la maison et dans toutes les pièces. C'est un véritable guide pratique de compagnonnage avec les plantes. Et Denis Pic-le-Lièvre a écrit Jardiner bio en BD. Ces deux livres sont édités chez Mama Édition. Et pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui de ces deux livres édités chez Mama Édition? Eh bien, parce que figurez-vous que c'est la fête des mamas. Podcaster, mes amis, podcaster ces petits bateaux par franceinter.fr ou bien réécoutez-les quand bon vous semble. Djenab Sangaré, Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Noël Bréham, et voilà quatre filles, Jean-Baptiste Audibert et Stéphane Combe, deux hommes, ont donc fabriqué ces petits bateaux. À suivre, Le masque et la plume de Jérôme Garcin, avec ce soir, tenez-vous bien, des films, des vrais films qu'on peut voir au cinéma, au vrai cinéma. Quelle joie!